C'est tout pour. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible maintenant pour la prédication de la parole dans l'évangile de Luc. Alors, on a vu la dernière fois, la semaine dernière, nous avons regardé. J'ai juste oublié de dire, peut-être j'ai le petit papier ici, dans les annonces, que le 13 janvier, il y a la réunion de dames aussi. 13 janvier, 14h. 16h, les réunions des sœurs ici. Donc, il faut s'inscrire sur le panneau d'affichage qui est au fond de la salle. Absolument. Il faut s'inscrire. Donc, vous pouvez, si vous voulez des informations, vous voyez Vigia, Patricia, Martine. Mais si vous êtes une dame, vous pouvez vous inscrire pour cette rencontre du 13 janvier. Luc, chapitre 2. Alors, je sais que nous connaissons, nous avons lu et relu tous ces textes qui entourent la naissance de Jésus. Et nous avions vu dans Luc chapitre 1 la dernière fois. L'année dernière, je me rappelle, nous avons vu le cantique de, on appelait ça le cantique ou l'adoration de Marie. Dimanche dernier, nous avons vu l'adoration de Zacharie. Et aujourd'hui, nous voulons voir une autre adoration, quelqu'un d'autre. C'est l'adoration de Siméon. Donc, la Bible parle de plusieurs cantiques, hein, plusieurs expressions de louange et d'adoration qu'il y a eu à la naissance de Jésus. Hein. Il y a eu Marie, il y a eu Élisabeth, il y a eu Zacharie. Il y a Siméon et puis il y a Anne aussi, hein, dans la fin du chapitre, juste après Siméon, qui sont des personnes qui sont venues et qui d'une manière ou d'une autre ont rendu hommage, ont rendu gloire à Dieu pour la venue de Jésus-Christ. Donc nous lisons à partir du chapitre 2, à partir du verset 25. Alors Jésus est amené au temple par ses parents, nous a-t-il dit, pour que tout ce que la loi ordonne à son égard puisse être accompli. Et c'est là que cet homme, Siméon, rencontre Marie, Joseph et puis Jésus. Donc nous lisons à partir du verset 25. Il y est, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Prions. Nous te remercions, Seigneur, encore pour ta parole, et nous venons réclamer ton aide et l'illumination de ton Esprit Saint, afin que nous comprenions les choses qui viennent de toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider, de nous permettre de te voir, oui, aussi à travers ce texte, et que nos cœurs puissent être encouragés, et que des âmes puissent être attirées à toi. Nous te prions cela en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Donc, je vous ai dit, il y a plusieurs cantiques dans ces événements, cet événement de la naissance de Jésus. Et ici, on a l'histoire d'un homme que l'on suppose vieux. On ne sait pas, le texte ne dit pas qu'il était vieux. Mais comme il dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix, on a toujours présenté Siméon comme un personnage relativement âgé. Puis je crois que ça a fait consensus chez tous les commentateurs qu'il était peut-être probablement quelqu'un qui avait atteint un certain âge, surtout qu'il est présenté en association un petit peu avec Anne juste après, qui elle était fort avancée en âge. Mais ce qui est important, c'est pas tant son âge que ce qu'il dit. Je crois surtout au verset 29 quand il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et j'ai intitulé ce message ce matin « Voir Jésus, le salut de Dieu. » Voir Jésus, le salut de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà de ce qui nous est raconté ici? Luc raconte toutes ces choses et il le dit au début de son évangile. Hein. Il dit que il écrit à Théophile hein, et puis il dit qu'il a cherché à exposer les choses, à faire des recherches exactes sur toutes les choses depuis leur origine et de les exposer par écrit d'une manière suivie afin que tu reconnaisses avec certitude les enseignements que tu as reçus. Certainement, il reçoit avec certitude tout ce qui a été enseigné sur la personne de Jésus-Christ. Et ce que l'on peut voir dans tous ces textes, un petit peu, que nous avons pu lire, même ce matin déjà, c'est que l'évangéliste Luc se plaît à montrer des personnages, des personnes qui sont, comme Jean-Pierre l'a dit, des personnes qui obéissaient à la parole de Dieu, des personnes qui étaient des personnes pieuses. Il est dit de Zacharie et d'Élisabeth qu'ils servaient de manière irréprochable le Seigneur Jésus-Christ. On voit Marie, la servante du Seigneur, qui dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Joseph, il est dit que c'était un homme juste dans l'évangile de Matthieu. Et puis ici, on a Siméon, il nous dit que c'était un homme juste et pieux. Et particulièrement, ce que je voudrais souligner, c'est que la Bible dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Et je vous dis qu'en tout temps, ce que l'on peut voir, premièrement, c'est qu'en tout temps, le peuple de Dieu est marqué par une ferme espérance en Christ. Quoi qu'il y a cette idée qui ressort ici, qu'en tout temps, le peuple de Dieu est marqué par une ferme espérance en Christ. Siméon attendait, il dit, la consolation d'Israël. Marie, certainement, elle attendait, on le voit dans son cantique, quand elle parle et qu'elle dit que Dieu s'est souvenu de sa miséricorde, elle comprend des choses, ça se voit qu'elle aussi, qu'elle attendait. Et Zacharie, dans son cantique aussi, hein, on sent cela. Et il est clair ici, cela est clair aussi ici pour Siméon, c'est explicite en tout cas. Il attendait la consolation d'Israël. Et puis pour Anne, juste après, hein, si vous lisez la suite du texte, vers le verset 38, il est dit, étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Donc il y avait dans Jérusalem des gens qui attendaient la consolation, la délivrance d'Israël. Et donc ici, Siméon est marqué par cette attente de la consolation d'Israël. C'est-à-dire, il attendait la venue du Messie. C'est une autre manière de dire qu'il attendait la venue du Messie. Le peuple d'Israël a beaucoup souffert de la part de ses oppresseurs, de l'oppression qu'il a subie. Il a connu l'esclavage en Égypte, les déportations. Et à l'époque de la naissance de Jésus, hein, on sait bien que le peuple, la Palestine, était sous occupation romaine. Et les Juifs attendaient quelqu'un qui pourrait les délivrer de cette occupation romaine. Donc c'est un peuple qui avait un grand besoin de consolation. Mais certainement leur souffrance était due encore plus profondément à leur péché. Et c'est aussi dans ce domaine spirituel qu'ils avaient besoin de consolation, que la consolation était le besoin le plus important. Et cette attente de Siméon ici répond, on pourrait dire, à la promesse qu'avait faite Ésaïe, dans Ésaïe 40, versets 1 à 3, il est dit « Consolez Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Et vous savez que c'est ce texte qui précède ce qui est dit à propos de Jean-Baptiste, hein, qui va être envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Et certainement, Siméon a ces choses en tête, hein, toujours, il a toujours gardé ces choses en tête, et la Bible dit qu'il attendait le jour où ce Messie arriverait pour délivrer son peuple et pour consoler, bien sûr, son peuple. Donc Siméon, il est qualifié comme quelqu'un qui attend la consolation de son peuple. Il avait reçu même du Saint-Esprit, peut-être tellement il attendait qu'il avait reçu du Saint-Esprit la promesse qu'il ne mourrait pas, on a lu, hein, tout à l'heure, avant d'avoir vu le Messie, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est la même chose, hein, Christ-Messie, c'est la même chose, c'est loin de Dieu, celui qui est loin par Dieu. Et il avait reçu par l'Esprit-Saint cette promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu loin de Dieu, le Messie, le Christ. Et si vous regardez bien, Luc évoque juste après le récit de cette dame, hein, que j'ai dit, qui Anne aussi, qui elle était empreinte de la même attitude que Siméon. Elle aussi, elle attendait. Et donc il me semble en tout cas que le Seigneur attire notre attention sur le fait que ce qui caractérise le peuple de Dieu, c'est l'espérance et l'attente ferme qu'il a toujours dans le Messie et dans la venue de Christ. Attendre Christ et espérer en lui, je crois, est le signe du véritable croyant. L'attente du Messie a caractérisé tous les croyants de l'ancienne alliance. Si on prend l'exemple d'Abraham, Jésus lui-même, en parlant d'Abraham, il dit que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il dit, et il l'a vu et il s'est réjoui. Donc il était dans cette attente du jour, et on pense qu'il est question ici de la première venue, de la venue du Messie. Il était dans cette attente-là. La Bible parle plus loin de lui comme quelqu'un qui attendait la cité qui a de solides fondements. Et on voit ces hommes toujours dans cette attitude, en train d'attendre. Et la Bible révèle que les prophètes aussi de l'Ancien Testament attendaient, scrutaient même, le Messie, hein, 1 Pierre 1, verset 8, hein, vous vous rappelez, la Bible dit qu'ils ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. Ils ont cherché à scruter les temps qui seraient marqués par le Saint-Esprit, et il leur a été dit que ce n'était pas pour eux, hein, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, mais que c'était pour nous. Mais ils étaient remplis de cette espérance, voulant connaître les temps et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu, nous dit la Bible. Et sans doute, depuis, je pense, la promesse qui a été faite dans le jardin d'Éden, hein, Genèse 3, 5, vous vous rappelez ce que Jésus avait donné comme condamnation, Dieu avait donné comme condamnation au serpent, et qui contenait la promesse aussi de la venue du Sauveur, hein, quand il dit que la postérité de la femme t'écrasera le talon, mais tu lui blesseras la tête. Eh bien, certainement, je pense que tous les regards étaient rivés vers l'accomplissement de cette promesse qui s'est au fil du temps, qui est au fil du temps est devenue de plus en plus claire, hein, par les prophètes, par ce que Dieu a permis à révéler aux prophètes, qu'il viendrait un jour ce Messie. Et Siméon est rempli, me semble-t-il, de cette espérance de la venue du Messie. Si vous lisez les paraboles de Jésus, par exemple, il est souvent question d'un maître qui part pour un voyage lointain et puis qui met du temps à revenir. Et que font ces sujets? Ils passent leur temps ici à attendre le retour de ce maître-là. Ils sont dans l'attente. Vous prenez la parabole des 10 vierges, par exemple. Eh bien, il fallait attendre l'époux. Et le peuple de Dieu est marqué par une attente. Et je pense que ça ressort du contexte de la naissance de Jésus. On voit des gens qui attendaient, qui se réjouissent en plus parce qu'ils ont vu l'accomplissement de ce qu'ils attendaient. Mais ils étaient marqués par l'attente. Et l'attente du Messie caractérise aussi les croyants sous la Nouvelle Alliance. Donc, le chrétien sous la Nouvelle Alliance attend la seconde venue aussi de Christ. Et c'est quelque chose qui caractérise les chrétiens de la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul fait même de l'attente un aspect de la conversion. Quand il parle, par exemple, des Thessaloniciens, il dit « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant, vous rappelez, les idoles pour, dit-il, servir le Dieu vivant et vrai et pour quoi faire ? Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Il dit que le chrétien véritable, la véritable conversion consiste à se détourner des idoles, à servir le Dieu vivant et à attendre des cieux celui qui revient pour nous délivrer de la colère à venir. Quand il écrit aux Philippiens, par exemple, il dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Philippiens 3, verset 20. Et la Bible, quand on la lit, bien non seulement elle nous présente le croyant fidèle comme quelqu'un qui attend l'accomplissement d'une promesse et le salut n'est pas encore arrivé à son plein épanouissement. Nous savons que nous attendons notre rédemption finale. Et bien non seulement la Bible présente le croyant comme quelqu'un qui attend l'accomplissement de la promesse, mais il est fortement exhorté même à attendre. L'apôtre Pierre dit « Attendez et hâtez l'avènement du Seigneur Jésus-Christ ». Donc nous devons attendre, mais nous sommes en plus ici encouragés, exhortés à être dans cette attitude dans laquelle étaient Siméon, Anne, Marie, Zacharie et toutes ces personnes. Parce que l'attente ferme caractérise le croyant. Dans Habacuc, par exemple, il est dit, quand Dieu parle de la prophétie, il dit par le prophète Habacuc, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc on sait qu'elle va se réaliser. Il dit, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Mais il ajoute, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. On note ici que malgré que le temps de la prophétie soit fixé, le prophète est exhorté à attendre. Et nous savons que Christ va revenir, mais nous sommes exhortés à l'attendre, à être dans cette attitude qui soupire après ce jour où il va revenir. Siméon, toutes ces personnes étaient dans une attitude dans laquelle ils soupiraient après la réalisation de la promesse. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi, le chrétien doit aussi être dans cette attitude où il soupire après la venue de Christ. Il doit être marqué par cela. Mais comment le croyant attend-il la consolation, le retour ici de Christ? La satisfaction de Siméon en voyant Jésus témoigne de l'intensité avec laquelle il attendait cette consolation. Il dit « Maintenant, Seigneur, Maître », il parle comme il est un esclave, il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Sa manière de dire les choses montre avec quelle intensité il attendait l'accomplissement de cette promesse. Et puis, quand elle est là, quelle satisfaction est la sienne et celle de son âme quand il voit le salut de Dieu. Plus rien maintenant ne me retient. J'ai vu ton salut. Vous vous rappelez, c'est un peu comme Jacob. Vous vous rappelez de Jacob lorsque ses fils sont venus le chercher et puis lui ont dit « Joseph vit, il est en Égypte. » Et il arrive et il voit son fils et il dit « Maintenant je peux mourir. » Il dit voilà, « Je n'ai besoin de plus rien d'autre. Je n'attendais que cela. » Et cela montre avec quelle intensité, quelle force Siméon attendait cette promesse de la venue du Messie qu'il avait lue dans l'Ancien Testament dont il avait reçu la certitude par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas aussi avant de l'avoir vu. Et la Bible dit qu'il vivait, c'était un homme juste qui vivait dans la piété. Il était pieux et l'Esprit de Dieu était sur lui. Et je crois que la manière d'attendre du croyant ne doit pas être une manière d'attendre passive, mais il y a une attente active, une attente en menant une vie de piété. Siméon était pieux, ça veut dire qu'il saisissait, le sens c'est qu'il saisissait le bien, le mot c'est tenir ce qui est bien. Donc il vivait en réglant sa vie, en faisant ce qui est bien, en cherchant toujours les choses qui sont bonnes. Et c'est ce que la Bible nous dit quand nous lisons Tite chapitre 2, versets 11 à 13, par exemple. L'apôtre Paul dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Écoutez, en attendant, c'est le rapport il y a ici, on vit dans la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est exactement ce que faisait Siméon. Il attendait la manifestation de la consolation d'Israël, mais en attendant, il vivait dans la piété. Et quand on lit l'Écriture, on est encouragé à attendre non de manière passive. L'apôtre Jean dit par exemple, il dit qu'on nous verrons un jour le Seigneur Jésus-Christ, mais il dit, mais si telle est votre espérance, eh bien, il faut vivre dans la pureté. C'est ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est l'espérance. Mais il dit, mais quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Okay. Donc, il n'est absolument pas question d'avoir une espérance passive dans laquelle on dit j'attends. L'attente véritable est marquée par une vie de piété et la recherche de la pureté et l'éloignement de l'iniquité. Et donc, c'est ainsi que Siméon attendait. Donc, le peuple de Dieu, je crois que c'est une vérité de ce texte ici, est marqué dans tout temps par l'attente ferme, l'espérance ferme en Jésus-Christ. Et Siméon a pu voir Christ avec joie parce qu'il l'a attendu aussi fermement. La Bible nous le dit, l'apôtre Paul parle je crois que c'est dans l'épître à Timothée, où il dit que Christ, qui est venu une fois pour porter les péchés du monde, il paraîtra une seconde fois, sans péché, dit-il, et qu'il apparaîtra à ceux qui auront aimer son avènement. Et quelque part, ils disent à ceux qui l'attendent. Donc, il y a un lien, vous voyez, dans le fait que, dans ces deux choses, celui qui voit Christ et qui le verra avec joie, c'est aussi celui qui l'attend véritablement, comme l'Écriture le montre. Deuxièmement, je voudrais voir à travers ce texte que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu opèrent pour le discernement du croyant concernant Christ. Donc, le croyant véritable est marqué en tout temps par la ferme espérance en Christ, mais on voit aussi ici que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu opèrent toujours pour le discernement du croyant concernant Jésus-Christ. Ici, regardez les versets, à partir du verset 26, il est dit « Il vint au temple poussé » verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et le bénit. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Comment discerner la volonté de Dieu? Comment savoir ce qu'il faut faire? Comment reconnaître l'accomplissement d'une prophétie après 400 ans de silence prophétique, parce qu'entre Malachie et puis l'apparition de Jésus-Christ, il y a 400 ans où il n'y a eu aucun prophète. Le prochain prophète après Malachie, ça a été Jean-Baptiste. Ça a été Jean-Baptiste. Hein. Et si vous lisez, vous rappelez, on avait étudié Malachie. Malachie se termine avec l'ouverture, on pourrait dire, des évangiles. Hein. Et 400 ans, comment savoir, quand on a attendu tout ce temps, et que décennie après décennie, les parents racontent, les textes disent que le Messie va venir, comment savoir qu'il est là? Et on voit Siméon qui arrive au temple, et il sait exactement que ce bébé qu'il voit, qui n'est rien d'autre qu'un bébé, il n'avait pas une auréole autour de sa tête, quelque chose qui le faisait ressembler à quelqu'un d'autre, c'est un bébé comme tous les bébés. Mais il discerne en lui qu'il est le salut de Dieu. Comment pouvait-il savoir cela? Et il n'a jamais dit cela avant. Il n'a jamais dit, ah, c'est peut-être celui-là. Non, il sait que c'est lui. Voilà. Il est arrivé à ce moment précis et il sait que c'est le salut de Dieu. Et je dis que c'est parce que Siméon était un homme qui était soumis à l'Esprit de Dieu et qui connaissait la parole de Dieu. Et certainement, c'est l'action de l'Esprit conjointe à la parole en lui qui lui permet de discerner Christ. Je crois qu'on a là le principe, un principe pour nous. On a une rencontre qui est orchestrée ici par l'Esprit de Dieu, j'ai envie de dire, et la parole de Dieu qui agit dans des cœurs obéissants. Marie et Joseph viennent au temple pour présenter leur enfant et pour ordonner, nous dit le texte, accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Ils obéissaient à l'Écriture. Mettez-vous un peu à la place de Marie et Joseph. Ils avaient eu la visite d'anges qui leur avaient dit ce que serait cet enfant. Mais une fois que l'enfant est là, il est né, on fait quoi? C'est quand même pas n'importe quel enfant, c'est le Fils de Dieu. Il dit, est-ce qu'on va faire avec le Fils de Dieu comme on fait avec n'importe qui? Qu'est-ce qu'on fait? Ça me rappelle ce qu'avait un ange était venu annoncer la naissance de Samson. Vous vous rappelez, aux parents de Samson? Eh bien, la Bible dit que l'ange est apparu à la femme et puis lui a dit, voilà, tu ne mangeras point, tu ne boiras ni liqueur forte, ni vin, etc. Parce que l'enfant sera consacré de le ventre de sa mère, etc. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Il dit un certain nombre de choses à la femme et puis la femme raconte cela à son mari. Et son mari prie pour que Dieu envoie encore l'ange pour qu'il lui dise ce qu'il doit faire pour cet enfant. Et l'ange, sa prière est exaucée, l'ange revient et il vient encore auprès de la femme. Et la femme va chercher son mari, Manoah, il dit Manoah, viens vite et on va voir. Et voilà, l'homme, il est là. Et Manoah dit, si ce que tu as dit se réalise, j'aimerais savoir ce qu'il faut faire à l'égard de cet enfant. Vous voyez, c'est un enfant spécial. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas. Ça aurait été une naissance comme toutes les autres. Il n'aurait pas posé la question. Mais là, c'est un enfant spécial. Qu'est-ce qu'il faut faire avec celui-là? Et j'aime bien. L'ange lui dit, mais ce que j'ai dit à la femme. C'est-à-dire, il n'avait pas de nouvelles choses à lui annoncer que ce qu'il avait déjà dit ici. Et c'est un peu la même chose avec Marie et Joseph. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant? Eh bien, ce que la loi dit de faire avec tous les enfants. Jésus est né sous la loi. Ni l'apôtre Paul Galate. Donc, que faire avec lui? Ce qu'il y a de plus naturel à faire pour un enfant de Dieu, pour un croyant, obéir à la parole de Dieu. Donc, ils prennent l'enfant et ils l'emmènent au temple pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi de Moïse. Voilà comment agissent les enfants de Dieu. Et ils agissent selon ce qui est écrit dans l'Écriture. Ils obéissent aux Écritures, le plus naturellement du monde. Je veux dire, c'est là qu'il doit chercher des choses, mais pas dans des révélations spéciales. Que fait Siméon? Siméon, il est dit trois fois dans les versets qu'on a lus qu'il était sous la direction de l'Esprit. Il est fait trois fois mention du Saint-Esprit, verset 25, verset 26 et aussi au verset 27. Et puis quand on lit ce qu'il dit, on voit combien il était empreint aussi de la parole de Dieu, parce que ce qu'il dit sont des citations de l'Ancien Testament aussi. Comme Marie avait fait et comme Zacharie avait fait, Siméon aussi, quand il parle, il cite l'Ancien Testament. Donc il y a une action ici conjointe de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu qui agit dans le cœur de Siméon, dans le cœur de Marie et de Joseph, et qui fait que, eh bien, arrivé à cet instant où la femme, Joseph et Marie viennent avec l'enfant, eh bien, Siméon reconnaît, poussé par l'Esprit, d'accord, avec cette conviction dans son cœur que cet enfant est bien l'enfant qui avait été promis, bien le Messie, et bien la consolation d'Israël. Donc Siméon était soumis à la parole de Dieu. Et il croyait car il attendait la réalisation de cette promesse. Donc l'Esprit de Dieu sur lui le dirige et la parole de Dieu en lui agit aussi pour le conduire. Et donc au discernement. Et ce que Siméon discerne, c'est que Jésus est le salut de Dieu. Quand il voit cet enfant, ce bébé, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Le bébé de la crèche est le salut de Dieu. Le bébé qu'il a vu est le salut de Dieu. Il n'est pas présenté ici comme celui qui va faire une œuvre de salut. Siméon ne dit pas, voilà celui qui va faire quelque chose. Mais il dit, voilà celui qui est le salut de Dieu. C'est une personne et c'est ce qu'il est qui est la chose, semble être la chose la plus importante ici. Spurgeon disait à ce propos, il dit qu'il est beau de voir le salut dans l'œuvre, la vie et la mort de Christ, mais nous ne devons jamais oublier que toutes ces choses sont liées à la personne de Christ. Il est lui-même, en lui-même, le salut que Dieu a pourvu. Donc on voit Siméon exprimer vraiment sa foi dans les paroles de Dieu. Et ce qu'il voit, bien sûr, sous ses yeux, ça n'est rien d'autre qu'un bébé, mais ce qu'il croit dans son cœur, et ce que l'Écriture a dit, c'est le Messie. Ce qu'il voit, c'est un bébé, mais ce qu'il croit, c'est l'Écriture. Il est poussé, il le sait par le Saint-Esprit, et il dit devant ses parents, il témoigne devant ses parents que cet enfant est bien le salut, le Messie que Dieu a promis. Et durant son ministère, d'ailleurs, quand vous regardez, Jésus a toujours corrigé la pensée des hommes en la dirigeant vers lui à chaque fois, que ce soit de ses disciples ou des autres. Et l'évangile de Jean, par exemple, nous dévoile de nombreux endroits où Jésus dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie. » Et ce qu'il est d'une extrême importance. Et la question que Jésus pose à ses disciples, ce n'est pas « Que dit-on que je fais ?» Mais vous vous rappelez, c'était « Qui dit-on que je suis ?» Et il dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et un peu plus tard, dans une discussion qu'il avait avec les Juifs, il disait « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. » Et donc ce qu'il est d'une extrême importance. Et Siméon dit ici « Il est, Jésus est le salut de Dieu. » Le salut de Dieu, ce n'est pas qu'une œuvre, c'est une personne. C'est la seconde personne de la Trinité. C'est pour cela que c'est en lui, en une personne, qu'il faut mettre sa confiance pour être sauvé. Jésus est le salut de Dieu. Hein. C'est-à-dire, il est lui-même le salut, mais c'est le salut de Dieu, celui que Dieu a préparé. C'est Dieu qui a l'initiative de ce salut, et c'est exclusivement l'œuvre de Dieu. Ça n'est pas quelque chose qui est conçu de la pensée des hommes. C'est le salut que Dieu lui-même a préparé. Mais notez aussi que Siméon parle de la portée universelle de ce salut de Dieu. Il dit « Salut que tu as préparé devant tous les peuples ». Il a cette clairvoyance, « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple ». Et ici, le monde est séparé en deux catégories, Israël, les Juifs et puis les païens. Bibliquement, c'est comme ça qu'on est divisé dans le monde. Alors, on a beaucoup d'ethnies, etc., mais il y a deux catégories de personnes, on pourrait dire, en gros, ceux qui ont reçu les oracles de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul le présente. Et puis, les païens. Et quand il parle dans Romains 9 des Juifs, il dit que c'est à eux qu'appartiennent la promesse, la gloire, etc. Tout un tas de choses. Et quand il parle des païen dans Éphésiens chapitre 2, je crois, il dit nous autrefois, nous étions étrangers, gens du dehors, étrangers à la promesse de l'alliance, etc. Donc les païens sont représentés comme étant en dehors, et puis les juifs sont représentés comme étant ceux qui sont les réceptacles des oracles de Dieu. Et l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 3, quel est l'avantage du juif? Quel est l'avantage de la circoncision? Il dit qu'il est grand, déjà en ce fait qu'ils ont reçu les oracles de Dieu. Il nous faut accepter cela. Lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine, il lui dit quoi? Il dit le salut vient des juifs. D'accord? Et c'est le peuple que Dieu a choisi et par lequel il se fait connaître au monde entier. Et nous devons accepter cela, nous devons le reconnaître parce que il en est ainsi. Et c'est pour cela, je pense que Siméon parle ici d'un côté de la lumière pour éclairer les nations, ces nations qui sont présentées comme étant assises dans les ténèbres. Hein? C'est ce que la Bible dit à propos des nations. Et puis, et gloire d'Israël, ton peuple, le peuple que Dieu s'est souverainement choisi. Et c'est ce peuple qui s'est choisi pour qu'il puisse apporter la lumière aux nations. Et donc, c'est ainsi que Dieu a pourvu son plan. Mais je voulais souligner cela. Et on connaît, n'est-ce pas, l'aversion qu'avaient les Juifs pour les païens, à l'époque de Jésus, déjà. Hein. Et lorsque Pierre est entré chez Corneille, vous vous rappelez, eh bien, ses amis, ses frères juifs lui ont reproché cela. Tu es entré chez un païen et tu as mangé avec des païens. Et il a fallu que Dieu fasse un lavage un peu de cerveau, déjà dans un songe à Pierre, pour lui dire que ce que Dieu a déclaré pur, que l'homme ne le regarde pas comme impur, hein, parce que les païens étaient impurs. Rappelez-vous lorsque, par exemple, il y a eu la dispersion suite à la lapidation d'Étienne, eh bien la Bible dit que les chrétiens ont été dispersés, les juifs ont été dispersés, ils arrivent à Antioche, et il annonce l'évangile qu'aux juifs. Hein? Et puis, heureusement, il y avait quelques grecs là qui ont aussi annoncé aux grecs. Mais ils annoncent, Actes chapitre 11, vous pouvez voir ça, ils annoncent l'évangile, la parole qu'aux juifs, ici. Donc, ici, on voit qu'il y avait cette aversion et peut-être ce sentiment de supériorité qu'on est le peuple qui a été choisi par Dieu. Mais le plan salvateur de Dieu, révèle ici Siméon, englobait dès l'origine aussi les non-juifs. Et Siméon le sait parce qu'il connaissait les Écritures. Et il peut le dire sous l'inspiration de l'Esprit parce qu'il connaissait les Écritures. Et il dit que c'est le salut que Dieu a préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. Et quand il dit cela, il cite Ésaïe, hein, chapitre 42, verset 6, on peut lire ça rapidement, Ésaïe chapitre 42, verset 6, par exemple. Ésaïe 42, verset 6, il dit ici, « Et moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, et je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Voilà. Voilà ce qu'est la pensée de Dieu déjà ici. Et l'apôtre Paul le savait, il le cite. Pour regarder, je vais vous lire encore dans 49:6 aussi, il dit la même chose, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dira plus tard, je crois, devant Agrippa, me semble-t-il, hein, que c'est pour cela que Dieu l'a envoyé, pour qu'il puisse ouvrir les yeux des nations. Il dit qu'il a fait cela selon ce qu'enseignaient les prophètes et Moïse. Actes chapitre 26, verset 22, il dit « Les prophètes et Moïse ont déclaré, ce qu'ils ont déclaré devoir arriver, c'est que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Au peuple d'Israël, au peuple singulier et aussi aux nations. Donc c'est le projet de Dieu que le salut soit annoncé à tous les hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Et Siméon, qui n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui, le sait profondément parce que c'était un homme qui était attaché à la parole de Dieu et qui était soumis à la direction du Saint-Esprit ici. Et comment ne pas citer ce que Jésus lui-même a dit quand il a dit « Je suis la lumière du monde hein? ». Lui-même parle de ce qu'il est et qu'il est de manière universelle pour tous les hommes. Jean chapitre 8, verset 12 « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc tel est le salut de Dieu. Il n'est pas pour une ethnie. Parfois, on parle avec des gens qui nous disent « Ouais, mais ça, le christianisme, c'est pour telle catégorie de personnes. Moi, je suis de telle ethnie, c'est pas pour moi. Je viens de tel coin de la planète, c'est pas pour moi, etc. » Mais ici, on voit que le salut de Dieu a une portée universelle. C'est ce que relève ici Siméon sous l'inspiration de l'Esprit. Et connaissant les Écritures, il dit que le salut de Dieu est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, son peuple. Regardez l'effet de ce salut de Dieu ici. C'est, concernant Siméon en tout cas, le regard paisible qu'il lui donne sur la mort. Il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Comme s'il disait « Maintenant, voilà, il faut me délier. Je peux partir en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. » Il n'y a rien d'autre que le salut, la connaissance, l'expérience du salut de Dieu pour apporter la paix face à la mort. J'ai lu un article de quelqu'un qui a dit « Dans toute ma jeunesse, j'ai toujours eu peur de la mort. » Quand elle voyait, c'est une dame, elle dit « Quand je voyais un corbillard dans la rue, je traversais pour aller de l'autre côté parce que si c'était une Mercedes noire, j'avais même peur que c'était un corbillard. J'ai toujours eu peur de la mort. » Et tout ce qui, même les mots qui s'approchaient du concept de la mort, c'était pour elle quelque chose qui la faisait souffrir. Donc elle a subi une thérapie avec des psychologues où elle a appris à apprivoiser la mort. J'ai appris à apprivoiser la mort. Et je me suis dit, quand il y a toutes ces personnes, je pense à toutes ces personnes qui disent avoir apprivoisé la mort, quand il y a une bombe qui éclate quelque part ou quelques coups de feu, quand on regarde la vitesse avec laquelle ils courent pour sauver leur vie, je me demande quelle mort est-ce qu'ils ont apprivoisé. Et on n'apprivoise pas la mort. C'est Dieu, Jésus-Christ, c'est celui qui est venu et qui a remporté la victoire sur la mort. Et à moins de le connaître, on ne peut pas être comme Siméon, en paix face à l'échéance de la mort. Parce que la Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Et je crois que dans le cœur des hommes, ils savent qu'il y a cette échéance. Et vous regardez que ce soit les deux personnages qu'on a les semaines dernières qui sont décédés, hein, le chanteur et puis l'homme de lettres, tous ont parlé un peu de la mort, hein, et de ce qu'il y a après. Ils savent pas trop, mais on sent que cette question quand même taraude un peu parce que et s'il y avait quelque chose. Et ce que les hommes font, ils disent, mais il n'y aura pas de jugement. Et on essaye de se conforter un petit peu avec cela. Mais à moins de connaître Christ, vraiment, expérimentalement, on n'a pas de paix comme Siméon face à la mort. Siméon était un homme juste, justifié, nous dit la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que quand nous sommes justifiés par Christ, eh bien, nous avons la paix avec Dieu. Par Jésus-Christ. Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Celui qui a la paix face à ces choses, à la mort, celui qui a la paix avec Dieu déjà dans sa vie. Et je me souviens de cet auteur qui posait cette question dans un sermon, il dit « Pouvez-vous mourir tranquille ?» Et il dit « Si vous ne pouvez pas mourir tranquille, dites-moi comment faites-vous pour vivre en paix ?» Et il dit, c'est une manière de dire qu'il faut préparer ces choses durant sa vie. Il faut être en paix avec Christ dans sa vie. Et pour arriver face à la mort, comme Siméon en disant, Seigneur, laisse-moi partir, prends-moi quand tu veux. C'est parce que nous sommes capables de dire ça. Hein. Il faut être en paix avec Dieu. Il faut avoir cette certitude que lorsqu'on aura fermé les yeux, on se réveillera du bon côté. Et cela se prépare quand on est sur la terre. Et Siméon avait cette grande confiance en Dieu. Donc ça, c'est, on pourrait dire, l'effet de ce salut. Il éclaire les nations sur le péché, mais aussi il donne à celui qui place sa confiance en Jésus-Christ une grande confiance dans la vie et dans la mort. C'était celle de Paul. Que je vive ou que je meure, disait-il, un Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et cela, seul le croyant véritable peut dire avec vérité cela. Et puis troisièmement, je termine disant que Siméon parle aussi un peu plus loin et nous montre que le destin de tout homme se détermine en raison de sa réponse à Jésus-Christ. Le destin de tout homme se détermine en raison de sa réponse à Christ. Il dit à Marie, regardez le verset 34, il dit « Son père et sa mère étaient dans l'admiration de toutes ces choses qu'on disait de lui. » Siméon les bénit. Et il dit à Marie « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Donc Siméon prophétise quelque chose de difficile et de dur à entendre. Il affirme qu'il y aura deux conséquences à la venue de Christ. Il dit la chute ou le relèvement. Et il annonce vraiment que cet état de choses est voulu par Dieu. C'est ça que le texte. Il est destiné à. Si vous lisez dans la version Darby ce verset, il dit « Et Siméon l'est béni et il dit à Marie, voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs. » Autrement dit, il dit que c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Il a été mis là pour qu'il y ait chute et pour qu'il y ait relèvement. C'est pas on fera de lui ce qu'on... Non, la raison pour laquelle il a été mis. Et ce que Siméon dit ici, c'est encore des citations, des allusions à l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 8, versets 13 à 14, il dit « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, et ils seront enlacés et pris. » Voilà, ça c'est la chute. Et par exemple, Ésaïe 28, 16 peut être pris comme le relèvement. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. On a les deux concepts ici, la chute et le relèvement. Il dit que Jésus est soit une occasion de chute, soit une occasion de relèvement. Mais il n'y a que ces deux choses. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Il a été placé pour être soit une occasion de chute pour plusieurs, soit une occasion de relèvement pour plusieurs. Et la notion de scandale et de pierre d'achoppement traverse l'Écriture. Et elle est liée à la pénétration souvent de l'Évangile dans le monde. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, l'apôtre Paul dit que la prédication de l'Évangile est une folie pour les Juifs et un scandale pour les Grecs. Mais elle est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Chute et relèvement. 2 Corinthiens 2,16, il est question que Christ, il dit que nous portons Christ, c'est un parfum de mort ou un parfum de vie. C'est comme ça qu'il dit à peu près. Hein. Bon, je le cite pas forcément justement, mais il dit, voilà, c'est ça. Hein. Aux uns, nous sommes une odeur de mort et aux autres, une odeur donnant la vie. La chute ou le relèvement ici. Et on pourrait lire aussi 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Et donc Jésus, même, il utilise cette notion de pierre angulaire lorsqu'il parle de la parabole des vignerons, vous vous rappelez, hein, où il dit qu'un homme est parti, il a donné sa vigne à ses serviteurs, et puis il envoie après d'autres serviteurs pour chercher les fruits de la vigne. Eh bien, les serviteurs qu'il envoie sont tués, il en envoie d'autres, ils sont encore tués, et puis il dit finalement, je vais leur envoyer mon fils. Au moins, ils auront respect de lui. Mais les hommes disent, voilà, c'est le fils, emparons-nous de lui et tuons-le. Et il tue aussi le fils. Et Jésus dit que, bien, le maître, il prend la vigne et il la ferme à d'autres. Ça ressemble un peu à voilà, ce que l'apôtre Paul dit. Nous étions tournés vers vous premièrement, d'accord, mais vous n'avez pas voulu. Maintenant, nous allons vers les païens. Et Jésus dit ceci dans cette parabole. Il dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? Il dit, c'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Cette pierre est soit une pierre qui relève, soit une pierre qui cause la chute. Et donc nous pouvons voir dans ce récit de Siméon, de ce qu'il dit, cette vérité étalée dans toute la Bible. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est exactement ce que l'on voit ici. Donc le rejet de Christ a été l'objet, dont Christ a été l'objet, par les Juifs, a été pour les païens, on pourrait dire, la Bible le présente comme ça aussi, source de salut. Et aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, Christ est une occasion de chute pour plusieurs ou une occasion de relèvement pour plusieurs. Il est un signe de contradiction. Quelqu'un faisait remarquer que parfois vous rencontrez des personnes qui sont gentilles, qui sont à tous égards correctes, et il suffit que vous parliez de Christ pour qu'on ait l'impression que c'est une autre personne. La personne change et devient presque furieuse parfois. Okay. Pourquoi ? Parce que Christ, on ne peut pas être indifférent face à lui. Et c'est pas, les hommes ne peuvent pas choisir, même si quelqu'un dit « ça me laisse indifférent », c'est pas vrai. Dieu dit que c'est soit une occasion de chute, soit une occasion pour le relèvement. Et Dieu l'a voulu ainsi. Et il ne peut pas être dans la vie autrement que ce que Dieu a voulu. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et il dit que Christ, c'est où on le reçoit, où on le rejette. Il n'y a pas de voie intermédiaire. On ne peut pas être indifférent à Jésus-Christ. C'est ce que Siméon dit ici, c'est exactement cela. Il dit, cet enfant est destiné à être cela, à trancher, à établir une séparation et les gens seront ou d'un côté ou de l'autre. Jésus lui-même, il a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée et la division. Il dit, dans une famille, eh bien, le frère sera contre son frère. Parce que lorsque l'évangile pénètre quelque part, il crée une division. Et on a eu beaucoup d'études ces derniers, pas si vous vous rappelez, le mardi soir dans l'évangile de Jean où le frère Michael nous a parlé de Jésus-Christ et d'un aspect, un aspect qui était souvent souligné, c'était que Jésus-Christ est le sauveur qui divise. Jésus est le sauveur qui divise. Et on ne doit pas avoir peur de le dire, de le savoir, de l'intégrer aussi même dans le témoignage que nous voulons porter à l'Évangile. Siméon ne le cache pas à Marie. Il le dit franchement. Il dit que cet enfant, il est destiné, selon l'Écriture en tout cas, à être pour beaucoup une occasion de chute ou une occasion de relèvement ici. Et voilà, je termine avec quelques mots de conclusion. Ici, pour voir Christ, eh bien, il faut être animé d'une véritable espérance que seul l'Esprit de Dieu peut mettre en nous, dans le cœur. Et le chrétien véritable est celui qui attend avec une ferme assurance le retour de Jésus-Christ ici. Et il est quelqu'un qui est aussi soumis à la direction de l'Esprit et qui est attentif à la parole, qui connaît la parole, qui la médite. C'est ce que l'on voit ici dans la vie de Siméon. Mais aussi, quand il prêche l'évangile, il ne doit pas cacher ce qui est parfois difficile à entendre. Siméon ne cache pas que ce que Jésus-Christ est. Il révèle exactement ce qu'il est, tel que l'Écriture le dit. Il est, oui, la lumière pour éclairer les nations. Oui, il est la gloire d'Israël, mais il est celui qui va créer la division aussi. et il ne cache pas cet aspect. Et à cette période de Noël, souvent, nous pouvons avoir tendance à cacher une partie de la vérité. On présente l'enfant Jésus, c'est beau, des lumières, il y a tout qui scintille. C'est un message qu'on dit que les gens, bon, ils sont capables de recevoir ce message-là. Mais on ne dissocie pas, on ne doit pas dissocier. Et Siméon, je pense que ces textes nous le montrent, et tous les textes de la nativité nous le montrent, quand il parle de la venue de ce sauveur, le péché et la condamnation pour le péché est associé, et la division que cela va créer est montrée clairement. Rien de la vérité de l'évangile n'est caché, et l'enfant de Dieu ne doit pas non plus le cacher. La parfaite confiance dans la vie et dans la mort n'existe que pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ceux qui sont au bénéfice de la justice de Christ. L'apôtre Paul dit, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Et ceux qui ont la véritable paix, ceux qui sont justifiés en Christ, ils ont la paix par Christ avec Dieu. Voilà pourquoi donc Dieu a envoyé son Fils, pour racheter le pécheur. Ceux qui attendent avec une ferme espérance l'accomplissement des promesses connaissent et connaîtront une profonde joie lorsque cela arrivera. Et nous devons le savoir. Celui qui n'attend pas doit se poser des questions, parce que nous sommes exhortés à attendre et parce que l'Esprit de Dieu dans le cœur de Siméon, de Anne, des autres croyants de l'ancienne alliance, eh bien, ils ont poussé à attendre, à soupirer après. Vous lisez l'Épître aux Hébreux sur les hommes de foi, vous voyez cette attitude. Moïse qui regardait à la rémunération, ils sont dans cette situation où ils attendent. Et l'enfant de Dieu est marqué par une attente véritable du retour de Jésus-Christ. Et puis, je dirais ce que j'ai dit déjà dans le cas de Marie et de Zacharie, l'Esprit Saint conduit l'enfant de Dieu dans la parole de Dieu. Il y a parfois des gens qui disent « L'Esprit m'a montré que ». L'Esprit n'a jamais montré à Siméon quelque chose de différent de ce qui était dans la parole de Dieu. L'Esprit conduit Siméon dans l'Écriture. Mais il fallait que Siméon connaisse l'Écriture. Ce que l'Esprit utilise, c'est la connaissance que Siméon a de l'Écriture. C'est la connaissance que Marie a de l'Écriture. C'est la connaissance que Zacharie a de l'Écriture. Donc si en tant que chrétiens, nous n'étudions pas la parole de Dieu, nous ne connaissons pas l'Écriture, le Saint-Esprit ne va pas nous mettre des versets qui viennent comme ça à l'esprit. Non, nous devons d'abord étudier, lire, écouter la parole de Dieu. C'est parce que ces hommes, ces femmes, ont connu véritablement la parole de Christ, qu'ils ont pu être conduits par l'Esprit dans la parole de Dieu. Donc il est donc d'une extrême importance pour l'enfant de Dieu de connaître profondément les Écritures. Et c'est une des grandes leçons, je crois, qu'on peut tirer des textes qui sont racontés ici autour de la naissance de Jésus. Et notons que ce n'est pas la quantité de révélations qui compte. Siméon avait beaucoup moins de révélations que nous en avons aujourd'hui. Il avait jusqu'à Malachie, disons. Mais après, comment les choses se sont passées, il ne savait pas. Nous avons toute la révélation, toute. Nous avons beaucoup plus. Mais ce n'est pas la quantité de révélations qui est quelque chose. C'est ce que l'on fait de la révélation disponible. Donc, nous n'avons pas besoin d'autres révélations. Nous avons besoin d'apprendre à connaître ce qui a déjà été révélé. C'est comme quelqu'un disait, je crois, il priait Dieu pour que Dieu lui donne des yeux, non pas pour voir des choses nouvelles, mais pour voir ce qui est déjà là. Pas des yeux pour voir de nouvelles choses, mais de nouveaux yeux pour voir ce qui est déjà écrit dans la parole de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Et puis, je termine, ne pas craindre vraiment d'associer la naissance de Christ avec le but de sa venue, mais aussi avec les conséquences de son rejet. Et cette période de Noël est une période de laquelle nous pouvons parler avec ceux que nous rencontrons, avec qui nous avons l'occasion de parler de Noël. Non pas, comme Jean-Pierre a dit tout à l'heure, de rester simplement à la crèche et au berceau, mais d'aller sur toutes l'histoire de Jésus-Christ. Parler de sa naissance, oui, mais du but de sa naissance, du but de l'incarnation, et c'est ce que nous voyons dans l'Évangile aux Hébreux, hein, détruire la mort et délivrer ceux qui étaient sous l'emprise de la mort, délivrer les hommes de leurs péchés, mais aussi la conséquence qui attend ceux qui rejettent ce sauveur, comme Siméon le fait ici. La chute pour ceux qui le rejettent ou le relèvement pour ceux qui le reçoivent. Que le Seigneur nous conduise encore dans sa parole en ce temps.